Je viens de chanter là, Seigneur, parle-moi. Combien de fois je me trouve là avec mon épouse, puis j'ai rien à dire. Elle dit, parle-moi. Et vous savez, vous voulez fermer la bouche d'un mari, dites-lui, parle-moi. Tout d'un coup, il n'a rien à dire. Mais bon, ça c'est autre chose avec le Seigneur, il a toujours de bonnes choses. En général, c'est à nous de nous taire pour qu'il puisse parler. Hein, mais le Seigneur est bon et nous sommes très reconnaissants pour ce qu'il est. J'ai une étude ce matin. Je n'ai pas démarré avec cette pensée, mais je suis arrivé à cela. Et c'est après avoir tout rédigé que j'ai mis le titre. Et le titre, c'est « Thomas et Bartimée, des non-voyants, non-voyants qui ont cru ». Je vous invite à prendre vos Bibles dans Jean chapitre 19. C'est Jean chapitre 20, hein, n'importe comment. Jean chapitre 20. Et la lecture se fera à partir du verset 24. Donc il s'agit de Thomas, celui qui a cette pauvre réputation de dire si je ne vois pas, je ne crois pas. Hein, et on lui. Mais je crois qu'il y a pas mal de gens dans le monde qui ont ce problème. Donc, Jean chapitre 20 et verset 24. Thomas, appelé Didyme, qui veut dire le jumeau, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. » Hugues, j'ai dit. Hein, voilà, c'est comme ça. Mais vous savez, même quand on parle comme ça, le Seigneur entend. Vous allez voir. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous ». Puis, il dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. » Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu !» Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Je crois que c'est une parole tout à fait à propos. J'étais en train de fouiller un peu sur l'Internet et j'ai trouvé cette dissertation qui n'a rien à faire avec ni l'Église ni la religion. C'est une dissertation qui a été proposée et qui va comme suit. Le sujet va comme suit. L'affirmation « je ne crois que ce que je vois » est-elle justifiable? Ça, c'est en dehors de l'Église. Hein. C'était carrément un sujet de philo. C'était l'affirmation « je ne crois que ce que je vois » est-elle justifiable? Puis après, bon, j'ai lu la discussion. Et bien sûr, elle est basée sur cette formule qu'on entend souvent. « Je suis comme saint Thomas. Je ne crois que ce que je vois. Hein, » et on vient de le lire. Bon, nous n'allons pas nous lancer dans cette étude, mes discussions philosophiques, mais je voudrais quand même souligner deux, trois choses concernant cela. C'est que celui qui se réclame adhérent de cette formule réduit son monde à pas grand-chose. Vraiment, il a un très petit monde, très limité, l'horizon n'est pas loin, parce que, premièrement, il aurait du mal à croire que le général de Gaulle a jamais existé, parce qu'il ne l'a pas vu. Je pense que la plupart d'entre nous ne pourraient pas croire que Sydney se trouve en Australie, parce qu'on ne l'a pas vu. Et puis on aurait du mal à croire que l'eau est composée de deux molécules d'oxygène, d'hydrogène et une molécule d'oxygène, parce qu'on ne l'a pas vu. Et ainsi de suite, on pourrait nommer tant de choses. Et finalement, je serais réduit à pas grand-chose. Peut-être une vie d'animal, et encore. Mais si on ajoute encore à cela, c'est que je serai obligé d'admettre que je ne peux pas croire tout ce que je vois quand je me trouve dans la présence d'un prestidigitateur ou devant une illusion d'optique. Je vois, mais ce que je vois n'est pas ce qui est. Ajouter encore au problème, supposons que je sois atteint de myopie ou de presbytie, et voilà, après encore je réduis mon monde. Et après, j'ajoute encore à cela le problème du fait que le cerveau interprète l'information que l'œil lui transmet, et il l'interprète selon des idées préconçues, selon sa connaissance. Si c'est, il voit quelque chose, mais c'est un domaine qu'il ne connaît pas, il interprète n'importe comment. Et finalement, il se trouve à la merci de ses prédispositions, ses soupçons, ses... Vous savez, on regarde quelqu'un, la lecture du langage corporel, mais ça dépend ce qu'on pense déjà de la personne, comment on lit ce qu'elle fait. Tout est influencé. On ne peut même pas faire confiance à ce qu'on voit. Et s'il fallait se réduire à tout cela, pas grand-chose. On ne ferait rien dans le monde. Et les disciples de Jésus vivaient un peu cette situation. Là, on arrive, c'est la fin. Hein, c'est Jésus-Christ, en fait, il est déjà mort et ressuscité quand on lit ce passage de Jean 20. Et là, ils sont encore, les choses ne sont pas claires. Pourquoi ? Ça fait 3 ans et demi qu'ils sont avec lui, qu'ils voient tout ce qu'il fait, ils entendent tout ce qu'il dit. Mais finalement, quand Christ est mort sur la croix, ils ont été pris de court. C'était la surprise. Tiens, c'est comme ça que ça se termine. Eux, ils parlaient le même langage que Jésus. Ils avaient reconnu que Jésus est le Messie. Tout ce que Jésus disait, ils l'approuvaient. Mais à la fin, dans leur tête, ils étaient arrivés à carrément une autre conclusion. Pour eux, Jésus devait être celui qui allait restaurer le royaume de David. Il allait les libérer de tous ces envahisseurs. Et il a établi un nouveau royaume. Et les deux hommes sur le chemin d'Emmaüs, ils discutaient, ils ne savaient pas que c'était Jésus qui était avec eux, ils lui ont dit, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses sont passées. C'est l'échec total. Et tout ça, ils ont vu, ils ont entendu, ils ont arrivé à une autre conclusion. Vous savez, première remarque, c'est que on n'arrive pas à faire confiance ni à nos yeux, ni à notre tête, ni à nos pensées. Et si vraiment notre destinée éternelle devait dépendre de cela, eh bien, on est en très mauvaise posture. Ce matin, je voudrais diriger notre attention vers deux hommes. L'un veut voir pour croire, et l'autre voit parce qu'il croit. Thomas veut voir pour croire. Bartimée l'aveugle croit et il recouvrira la vue. Commençons avec le premier, Thomas. Donc, dans ce passage que nous voulons lire, Thomas, l'homme qui voulait voir pour croire. Thomas était un disciple qui avait suivi Jésus pendant tout le ministère terrestre. Comme on vient de dire, avec les autres disciples, Il avait entendu l'enseignement. Il avait déclaré avec les autres, tu es le Messie. Et mais un Messie selon une certaine interprétation. C'était là le problème. Et ils étaient tellement dans leurs idées que même quand Jésus leur a dit qu'il allait mourir, ils n'ont pas saisi. Regardez ces passages, c'est tellement clair. Matthieu chapitre 16, Matthieu chapitre 16, et les versets 21 à 23, Matthieu 16, c'était juste après que Pierre eut dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui a dit, ben, c'est pas toi qui as trouvé ça tout seul, c'est le Père qui te l'a révélé. C'est une chose qu'on ne reçoit que par révélation, qu'on ne peut croire pas parce qu'on l'a compris ou parce qu'on l'a découvert, mais parce que Dieu nous l'a dit. Hein? N'importe lequel d'entre nous, si nous croyons avec assurance que Jésus-Christ est le Christ, le Fils de Dieu, c'est parce que c'est l'œuvre de Dieu. Hein? C'est pour ça qu'il y a tant de gens qui ont du mal avec cela. Et donc... Ensuite, verset 21, donc Matthieu 16, verset 21, il nous dit « Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il soit mis à mort, et qu'il ressuscite le troisième jour. » On ne peut pas être plus clair. Et Pierre, il a entendu, il a entendu les mots, et il a réagi à ce que Jésus venait de dire. Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « Ah, tu le plaises, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Il dit, « Tu es en train d'interpréter ce que tu entends et ce que tu vois, mais tu es en train d'interpréter selon les pensées des hommes. » Et tu es sous l'influence des pensées des hommes, et ce qu'on t'a donné, ce que tu as acquis par ton éducation, par la société dans laquelle tu vis, tu es marqué par ce contexte, et tu n'arrives pas à penser selon les pensées de Dieu. Et il a dit ça à Pierre, hein. Certains prétendent que c'est lui qui est à la base de l'Église, et ben dis donc, il était mal choisi. Heureusement que c'était Jésus-Christ qui est la pierre sur laquelle l'Église est construite. Et il dit en plus, non seulement est-ce que tu te trompes carrément, mais tu essaies de mettre un scandale, de me faire trébucher et de me faire me détourner du plan de Dieu. Donc non seulement tu te trompes, tu as mal compris, tu parles avec assurance, parce que Pierre a toujours parlé avec assurance, mais il a dit... Mais tu te trompes complètement. Tes pensées ne sont pas alignées sur les pensées de Dieu. Tu ferais mieux de te taire et puis de commencer à écouter. C'était clair. Parce que Pierre a même réagi par rapport à ce que Jésus a dit. Donc c'était clair. Et la deuxième fois que Jésus parle de ça, c'est dans Marc chapitre 9, l'évangile de Marc chapitre 9. Et les versets 30 à 32. Donc c'est après la transfiguration. Et ils avaient essayé de chasser un démon, ils n'avaient pas pu. Et Jésus dit, mais ça, c'est cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Et ailleurs, il dit, et le jeûne. Et au verset 30, il dit, partir de là et traverser la Galilée. Et Jésus ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples et leur dit, « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir, et trois jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole, et ils craignaient de l'interroger. Pourquoi est-ce qu'ils ne comprenaient pas? Pas parce que ce n'était pas clair, parce que ça ne correspondait pas à leur pensée. Et on le fait tout le temps entre nous aussi, hein, des fois. Ma femme me dit, mais je t'ai dit. Je dis, mais moi j'ai compris ça. Elle dit, non, je t'ai dit. et me tient responsable, alors que moi, dans mes pensées, j'avais vu autre chose. Bon, heureusement qu'elle pardonne souvent. Hein, on ne serait pas là si elle ne pardonnait pas. Mais, vous savez, nous sommes défectueux dans ce domaine-là. Et on est drôlement marqué par ce qu'on a déjà dans la tête. Et comme je dis souvent, je ne peux voir qu'avec mes yeux. Mais mes yeux, eh bien, ils sont déjà prédisposés à quelque chose. Et je ne peux pas faire confiance, même à mes yeux, même à mes oreilles, même à mes sens. Et vous savez combien de fois on est trompé. Ça, c'était la deuxième fois. La troisième fois que Jésus l'annonce, c'est chapitre 20 de Matthieu. Donc, plus tard, juste avant de sa crucifixion et dans les dernières heures de sa vie avant la crucifixion. Donc Matthieu chapitre 20, les versets 17 à 19. Il dit « Pendant que Jésus montait à Jérusalem, et il savait pourquoi il montait, il prit à part les 12 disciples et leur dit en chemin, « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient, et le troisième jour, il ressuscitera. » Écoutez, on ne peut pas être plus clair. Mais eux, ils entendent ça, et c'est comme si on leur parlait du chinois. Bon, il y a une bonne partie de notre monde, si on leur parlait chinois, ils comprendraient. Mais nous, ici, en tous les cas, on ne comprendrait pas. Mais il dit, ils ne saisissent pas. Pourtant, c'est juste avant. Et même dans Jean chapitre 12, donc Jean chapitre 11, vous savez, c'est la résurrection de Lazare. Chapitre 12, c'est quand Marie oint la tête de Jésus. Et donc, dans ce passage-là de Jean chapitre 12, verset 23, eh bien, Jésus insinue, mais de manière à ne pas se tromper. Jean chapitre 12, versets 23 à 25. Écoutez, voir si vous comprenez ce que vous voulez dire. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Ah, ça, c'est ça qu'il voulait entendre. « en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. » Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ça veut dire quoi? Il dit, si je ne meurs pas, si je reste comme ça, eh bien, il n'y a que moi. Et je serai tout seul dans la gloire. Mais si je meurs, eh bien, il y aura foule dans le ciel à cause de ma mort. Et il le dit tout clairement. Et ça, c'est juste avant, c'est la semaine avant sa crucifixion. Et Thomas, comme en fait tous les disciples, hein, le pauvre, on l'accuse de lui, mais c'est tout le monde. Hein. Il n'arrive pas à croire. Le problème est réel. Thomas représente non pas ces gens qui pensent avoir besoin de voir pour croire, mais en réalité, ces gens croient beaucoup de choses qu'ils n'ont jamais vues. Et finalement, même ce qu'ils croient déjà influe sur ce qu'ils voient. Et c'est des gens qui ne sont pas aussi honnêtes qu'ils prétendent l'être, avec eux-mêmes. Ils se trompent eux-mêmes surtout. Vous savez, par exemple, c'est délibérément qu'ils choisissent de croire à ce qui leur convient le mieux. Et c'est sûr que ces disciples, eux, se disaient, si Jésus devient roi, nous, on sera des ministres. Tandis que si Jésus meurt, qu'est-ce qu'on sera? Et souvent, et c'est ça l'être humain, et nous avons besoin de toujours réévaluer nos cœurs, pourquoi est-ce que je prends la position que je prends? Pourquoi est-ce que je crois ce que je crois? Pourquoi est-ce que je vais dans ce sens-là? Est-ce vraiment parce que une réelle recherche de la vérité ou est-ce que c'est parce que ça m'arrange? Vous savez, je vous donne un exemple. Il y en a qui préfèrent croire à l'évolution des espèces selon le hasard plutôt qu'à l'apparition des espèces selon un dessein intelligent. Déjà, on arrive, et beaucoup de croient, c'est venu comme ça, comme ça. Alors que s'il fallait croire ses yeux, il n'y a personne qui a vu quelque chose, un phénomène pareil. Où les choses, par hasard, ça donne quelque chose de meilleur. Après, on dit, bon, ben, quand même, déjà de se dire, sans dire Dieu, qui disent déjà, bon, ben, il y avait un dessein intelligent derrière cela, et ça a permis que ce monde, finalement, ce soit quand même un monde assez bien fait. C'est déjà une chose. Ou bien, vous êtes de ceux qui, eh bien, qui font confiance à un ouvrage archéologique qui a été rassemblé par une quarantaine de rédacteurs et qui a fait la preuve du temps, et ce registre s'appelle la Bible. Mais c'est un ouvrage archéologique, hein. On trouve une pierre avec un moitié de dessin et déjà c'est précieux, on le met sous vitrine. Et un ouvrage aussi bien préservé que la Bible, ah non, mais ça c'est autre chose, ça. Vous savez, on n'est pas honnête. Et parce que, pourquoi ? On a des idées préconçues, on veut certaines choses, on veut croire certaines choses, et donc il faut que ça aille dans ce sens. Vous savez, un autre exemple. Vous savez, vous rencontrez facilement des gens qui croient à la réincarnation. Dis-moi, je crois à la réincarnation. Ah bon, tu en as déjà vu? Tu as vérifié ça? Tu en sais quelque chose? Ou est-ce que tu choisis de croire cela? Il y a aussi ceux qui croient que l'esprit du défunt cherche à communiquer avec ses bien-aimés. Et ça, on peut le croire. Hein. Mais quand tu parles de résurrection de Jésus-Christ, oh non, ça ne va pas. Mais lequel est plus aisé de croire? Lequel a été vérifié par la vue et constaté? L'un n'est pas plus facile que l'autre. Mais alors, pourquoi certains croient cela et refusent l'autre? Hein, la question, c'est lequel est plus aisé de constater avec l'œil nu? La réincarnation, les esprits des défunts, et alors là où la personne a eu cet accident mortel, eh bien on revient régulièrement mettre des fleurs parce que il se peut que son âme rôde dans les parages. Et ça on le fait, personne n'a honte de le faire. Mais quand on dit, mais je crois à la résurrection de Jésus-Christ, et alors que il y a des gens, leur vie a été transformée par cela. Et grandement affecté. Et là, il dit, je ne peux pas croire, parce que c'est vraiment pas logique. C'est pas possible. Vous savez, finalement, Thomas, il a fini par croire. Hein. On avait déjà lu le récit, il a fini par croire. Mais vous savez, quand il a cru, c'est pas parce qu'il a tout compris, parce que tout était expliqué. Parce que lui, il va être là, tout d'un coup, Jésus apparaît de nulle part, la porte est fermée, la porte n'a jamais été ouverte, et tout d'un coup, il est là. Et puis Jésus lui dit, Thomas, viens ici. Bon, il a dit gentiment, il n'a pas dit comme ça, ce ton-là, mais il a dit, Thomas, viens voir. Il dit, regarde, ça te dit quelque chose? Il dit, regarde ici, tu vois le... Mets ta main, pour être sûr. Vous savez, Thomas, il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Il a cru. Thomas, attends. Tu avais dit que tu ne croirais que si tu nous voyais. Explique-moi comment Jésus est rentré dans la pièce. On t'a expliqué ça? Explique-moi comment un qui apparaît comme un esprit, tout d'un coup tu le touches, il a un corps. T'as compris quelque chose? Non. Explique-moi comment un mort peut savoir ce que tu as dit il y a 8 jours à des amis. Vous savez, c'est pas, on ne croit pas parce qu'on a compris ou parce qu'on a vu. Finalement, le fait qu'il ait vu, ça n'avait rien à faire. C'est que Thomas a entendu la voix de Jésus. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient des paroles de Christ. C'est pas parce que c'était expliqué, c'est pas parce que ça a été compris. Finalement, il y a un moment où on entend la voix de Jésus, on n'a plus besoin qu'on nous explique, on sait que c'est ça. Et Thomas, vous lisez la tradition chrétienne concernant Thomas, et il n'y a pas de raison de douter, c'est pas dans le texte biblique, mais c'est dans la tradition chrétienne, que Thomas est mort en martyr pour son Seigneur en Inde. Bon, il paraît qu'il y a une cathédrale là-bas où on peut trouver son corps, bon, ça c'est pas un problème. Pas grave, mais il a cru tellement fort qu'il était prêt à mourir pour cette vérité. Et c'était pas une conversion intellectuelle. Il a entendu la voix de Jésus et il a cru. Sans voir. Et Jésus dit, à la fin, il termine cette parole, il dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Il a dit, en fait, même si tu ne vois jamais, ça ne t'empêche pas d'avoir toute la joie qui est là pour celui qui croit. Il dit, tu peux rentrer et tu peux accéder à toute la conviction qui a motivé Thomas à mourir pour son Seigneur. Finalement, la personne a tout mis sur la condition, il faut que je voie. Et finalement, voir n'a rien à faire avec la chose. Ce n'est ni voir ni pas voir qui fait la différence. C'est le fait d'entendre la parole de Dieu. Et c'est de l'écouter et laisser agir cette parole dans notre cœur. Bartimée, Luc chapitre 18. Bartimée, Luc chapitre 18. Et je vais lire le passage. Luc chapitre 18 et les versets 34 à 43. Luc 18, 35. Il dit, comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. Tout d'un coup, il a l'impression qu'il y a c'est plus dense. Ça bouge, il y a quelque chose qui se passe. Et il a ce sentiment, parce que, vous savez, quand on est aveugle, eh bien, on entend mieux. Et il interprète ce qu'il entend. Alors, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Et quelle est sa réaction? Et il crie encore plus fort. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, il lui demanda, « Que veux-tu que je te fasse ?» Il répondit, « Seigneur, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. » Et à l'instant, il recouvra la vue, il suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple voyant cela loua Dieu. Bartimée, on n'en sait pas plus sur lui. C'est un personnage très différent de Thomas. Il était aveugle et vivait de la mendicité. Il n'est pas moins intelligent qu'un autre. Seulement, il y avait ce problème de cécité qui l'empêcher de faire beaucoup de choses. Et certainement que c'est cette cécité qui l'avait empêché d'aller rejoindre Jésus. Apparemment, il avait entendu parler, parce qu'à peine si on lui dit « c'est Jésus de Nazareth », tout de suite, il savait ce qu'il voulait faire. C'était déjà dans le cœur. C'est l'opportunité qui lui manquait. Et puis certainement, c'est cette cécité qui l'a empêché de se déplacer pour aller trouver celui qui pouvait l'aider. Mais son contact avec les gens, ses discussions, eh bien, il avait quand même entendu pas mal de choses concernant Jésus. Et il était arrivé à la conviction que Jésus pouvait l'aider. Pouvait lui rendre sa vue. Et peut-être que les gens lui disent, écoute, tais-toi, regarde, tu m'aimes pas beau là, puis t'es aveugle, et puis t'es un mendiant, t'es pas... Lui, il a autre chose à faire. Hein. Vous savez, il ne s'est pas laissé détourner par des pensées pareilles. Et les, vous savez, de nos jours, qu'est-ce qu'on nous dit? Dès qu'on veut s'intéresser un peu aux choses de la Bible, quelque chose dit, écoute, tu es né dans une église, hein, tu as été baptisé, tu es dans une religion. Hein, ça ne bouge pas. Perturbe pas ta vie, ne te crée pas de problème. Reste... Vous savez, si Dieu voulait que tu sois voyant, ben, il t'aurait créé voyant. Hein. Ben, tu ne vois pas, tu es là, tu es né là, ben, tes parents étaient comme là, ben, écoute, reste là. Cet homme-là, il n'était pas de cette conviction-là. Il a dit, moi, peu importe d'où je viens, ce qui m'importe, c'est où je vais. Et il y en a un qui peut changer toute ma vie. Et pour lui... Dès qu'il apprend que Jésus de Nazareth est de passage, vous savez, quand vous êtes assis au bord de la route, ça prend combien de temps pour les choses de passer? Vous avez déjà été sur le bord de la route quand il y a le Tour de France qui passe. Vous êtes là pendant des heures et d'heures, vous avez réservé votre place. Et puis tout d'un coup, boum, et puis c'est terminé. Et puis vous avez essayé de prendre quelques photos, et puis c'est tout flou parce que tout le monde est passé. Et puis vous n'avez pas vu celui que vous vouliez voir. Lui, il se trouve un peu dans cette situation-là. L'opportunité, la fenêtre d'opportunité est très petite. Et s'il ne réagit pas vite, l'occasion sera passée. Cet homme-là, à peine s'il entend Jésus de Nazareth, parce que déjà, quand il a entendu le bruit, c'était peut-être par ici, quand on lui a dit que c'est Jésus de Nazareth, Jésus est déjà là. Et après, il fallait réagir avant que Jésus soit trop loin. Et puis après, vous avez fait les souks au Moyen-Orient, hein, ça, il y a du bruit. Hein. Et il se met à crier de toutes ses forces. C'est le moment, sinon c'est terminé. Puis en plus, ce que lui ne savait pas, c'est que Jésus était en train de se rendre à Jérusalem pour être crucifié. C'était vraiment la dernière opportunité. Et il se met à crier. Et Jésus l'entend. Et Jésus entend, vous savez, pour une prière, c'était une drôle de prière. Jésus de Nazareth, aie pitié de moi! Bon, faites ça dans une église, on va vous mettre dehors. Mais Jésus a entendu. Parce que Jésus a entendu l'urgence. Il a entendu le cœur de l'homme. Et Jésus s'est arrêté, foule tout autour, il se concentre sur une personne. Vous savez, chacun d'entre nous, nous sommes assez importants pour que Jésus s'arrête et nous écoute. Et la prière n'est pas classique, mais elle est entendue. Vous savez, il y a beaucoup de belles prières qui ne sont jamais entendues. Mais là, c'était le cri de son cœur. Et sachez que c'est pas la prière qui sort de votre bouche qui va quelque part, c'est le cri qui part de votre cœur qui va jusqu'au ciel. Jonas était au fond de la mer, dans le ventre d'un poisson, et sa prière est allée jusqu'au ciel. Parce que ça venait d'un cœur repentant. Jésus vient et lui dit, écoute, qu'est-ce que tu veux? L'homme n'a pas réfléchi longtemps. Il a dit, ben, je veux voir. Jésus lui dit, ben, écoute, tu t'es adressé à moi, tu as cru que je suis capable de te rendre la vue, et ben, je te donne la vue. Et en plus, parce que tu as cru, tu as exercé de la foi dans ce domaine-là, hein, Dieu ne demande pas d'avoir une grande foi, il demande de croire quelque chose de vrai le concernant. Quelle que soit cette vérité qu'il a rendue claire à votre esprit, eh bien, il dit, crois cela. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Mais ce que tu as entendu clairement, et tu sais que tu l'as entendu clairement, crois-le. Ça changera ta vie, ça révolutionnera ta vie. Et vous savez, ce verset que j'ai cité tout à l'heure, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient des paroles de Christ. Vous savez que le mot « parole », là, ce n'est pas le mot « logos ». Le mot « logos », c'est celui qu'on trouve dans Jean chapitre 1, la parole. La parole, la parole créatrice, la parole qui est inscrite sur un ouvrage matériel. La parole, c'est cette voix qui sort de la bouche de Dieu. Mais le mot là, c'est le mot « rhéma ». Rhéma qui veut dire « une parole ». Tu n'as pas besoin d'entendre tout ce que Dieu a dit. Il dit à partir du moment que tu entends une chose que Dieu a dit et que tu places ta foi, tu es sauvé. Et c'est exactement ce que cet aveugle était là. Il dit, il savait une chose. Il dit, Jésus, je sais que tu peux me rendre la vue. J'ai entendu ce que tu as fait. Je crois que tu es capable. Je crois. Et Jésus a dit, eh bien parce que cela, ben, tu es sauvé. Pas dans le sens que tu es sauvé de tes conditions économiques ou de ta situation familiale. Non, tu es sauvé, tu as la vie éternelle. Cet homme avait démontré qu'il avait la foi parce que quand on lui a dit, tiens, Jésus t'appelle. Vous savez ce qu'il a fait? Vous avez vu, c'est pas ici. C'est dans le récit de Marc, chapitre 10. Il dit quand il s'est levé, eh bien, il a jeté son manteau. Le manteau de mendiant. Il a jeté le manteau parce que lui, pour lui, ça y est. Il y a une autre vie qui était devant lui. Tellement il était sûr. Hein. Vous notez Marc, chapitre 10, versets 46 à 53. Et il nous dit qu'il a jeté son manteau et qu'il est allé vers Jésus. Le manteau qui lui faisait, qui provoquait la pitié chez les gens qui passaient pour qu'ils reçoivent quelque chose, il dit, j'ai plus besoin de ce gagne-pain-là. Moi, j'ai autre chose. Il avait la foi, demande de l'action. Celui qui croit, fait, agit. Les œuvres qui sont issues de la foi démontrent la foi. Les œuvres ne permettent pas d'accéder à la foi ou au salut. Mais une fois qu'on l'a, on va agir selon. Hein. Si l'arbre est vivant, il produit du fruit. Et cet homme se lève et c'est une autre vie. Il nous dit, à l'instant, il recouvre la vue et suivit Jésus. Il dit, je marche, je suis. Et on a comparé deux hommes qui ont abordé Jésus de manière très différente. L'un, il avait ce principe qui finalement se révèle être un principe qui ne vaut rien, c'est « je ne crois que ce que je vois ». Mais finalement, il n'a pas cru parce qu'il a vu, il a cru parce qu'il a rencontré Jésus. Le second, il croit. Le résultat, c'est pareil. Les deux ont suivi Jésus. Et c'est ce qui importe. Peu importe la lutte, peu importe les questions que vous êtes posées, peu importe les hésitations, peu importe toutes ces choses qu'il y a pu avoir. Le moment où j'entends la voix de Jésus qui me parle, eh bien, dorénavant, heureux, celui qui croit. Et et ces hommes ben, vivent une autre vie. Quelle que soit votre disposition spirituelle, tôt ou tard, il faudra croire. Si on veut quelque chose de Dieu, tôt ou tard, il faudra croire. Qu'on est, peu importe quel a été notre principe, quel importe d'où on vient, tôt ou tard, il faudra croire. Ou rejeter. Et à partir du moment qu'on accepte, qu'on entend, où on croit, on rejette. Si je viens à Dieu en avouant ma difficulté de croire, il dit, c'est pas un problème. Jésus n'a pas été dur avec Thomas. Il lui a dit, bah, heureusement que tout le monde n'est pas comme toi. Hein. Sinon, comment je vais construire mon église? Jésus n'a pas parlé comme ça. Je lui ai dit, bah, écoute, Thomas, okay, tu viens comme ça, je te prends comme ça. L'autre, il vient comme il est. Et Jésus. Et finalement, c'est le témoignage de chacun d'entre nous qui avons rencontré Jésus-Christ. C'est qu'on est tous venus dans un état d'âme autre que l'autre, avec des pensées autres que l'autre, avec des idées autres qu'un autre. Mais quand on rencontre Jésus et on le suit, ça commence à ressembler à Jésus. Ce qui apporte tôt ou tard, c'est de s'approcher de Jésus et c'est lui qui va intervenir. Et si je m'approche de Jésus pour qu'il intervienne dans ma vie, la foi apparaîtra. Aussi faible qu'elle, c'est peut-être qu'une étincelle, c'est peut-être juste qu'une petite flamme. Mais vous savez, des petites flammes peuvent provoquer de grands feux. Hein, demandez aux pompiers. Et cette parole est encore là. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient des paroles de Christ, d'une parole de Christ. Et à partir de là, eh bien, c'est juste une question de garnir cette foi, de l'enrichir, de lui donner encore plus d'éléments, plus de connaissances de Jésus, plus de marche avec Jésus, puis cette foi ben, se développe toute seule. Et après, il dit, Jésus, moi je crois en toi, où tu me conduis, je te suis. Déjà, ma femme, elle a pris un gros risque quand elle a dit, écoute, Steve, moi je te suis là où tu vas. Elle ne savait pas où j'allais l'emmener. Hein. Elle se demande encore. Mais Jésus, on peut lui faire confiance, parce qu'il ne veut que notre bien et notre épanouissement. C'est à chacun de voir et dire où est-ce qu'il en est. Je suis comme Thomas, Dieu te veut. Tu es comme l'aveugle, Dieu te veut. Tu es comme autre chose, quelqu'un d'autre, c'est pas un problème. Mais quand tu entends la voix de Jésus, viens vers lui, entends cette voix, reçois-la et il te mènera très loin. Nous allons prier. D'abord en silence, que chacun, selon ce que le Seigneur aura pu lui dire pendant ses paroles, et peut-être ça a provoqué carrément d'autres pensées. Mais ce qui importe, c'est ce que Dieu veut vous dire ce matin. Et répondez à ce qu'il vous dit. Et ensuite, je prierai.